Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
La troisième chose dont je veux que nous nous souvenions, la troisième chose que la fête de la Pentecôte m'a rappelée, vous savez, je prends le temps de dire ces choses parce que je veux que vous les notiez. Comme j'ai dit, c'est l'après-midi qu'on va prier, On va prier pour tous les cas difficiles. Venez avec des dossiers. Le prophète Jacques m'a demandé de vous dire ça. Venez avec des dossiers, avec des situations. Vous avez des portes qui ne sont pas ouvertes. Venez avec des choses précises pour que l'action de Dieu soit évidente et palpable. Ce troisième point, excusez-moi, s'il vous plaît. Comment vous allez? D'accord. Pendant que vous étiez en train de déposer l'offrande, j'ai vu quelque chose s'attaquer à votre main, s'attaquer à vos finances, s'attaquer à vos projets, à ce que vous faites. Change. J'ai vu que le lien ou la porte d'entrée à votre main, c'est votre cœur. Et j'ai entendu dans mon esprit, dis-lui de pardonner. Donc je ne vous connais pas. Mais Dieu me demande de vous dire dans cette atmosphère, pardonnez. Elle n'est pas la seule, mais pardonnez. Parce que ces blessures sont des hémorragies financières. Si vous ne guérissez pas de ça, ça va affecter, continuer à affecter vos finances. Pardonnez. Vous comprenez ce que je dis? Là, quand je parle, je n'ai même pas besoin que vous confirmiez parce que je sais. J'ai besoin que quelqu'un... Pasteur Alphonsine, viens, prends-la dans tes bras. Pardonnez. Okay. Dieu vous aime trop pour que vous restiez bloqué. Pardonnez. Pardonnez. Prie pour elle. Pardonnez. Ici, il y a... Je t'ai entendu, Saint-Esprit. Il y a un besoin de pardon. Et je vais vous dire la vérité. Par mon expérience, j'ai réalisé qu'il y a trois catégories de personnes auxquelles il faut pardonner. La plus évidente, ce sont les gens qui nous font du mal, qui nous ont blessés, qui nous ont déçus. Un père absent, une mère qui n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer, un conjoint, un ex, un chef, quelqu'un. Le deuxième type de personne, la deuxième catégorie, c'est soi-même. Et pour la plupart d'entre nous, c'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Parce qu'on se garde prisonnier de ce qu'on a mal fait, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Et donc on refuse d'accepter d'être heureux parce qu'on s'auto-flagelle et on se punit. Mais je veux te dire ce matin que si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Pardonne. La dernière catégorie, et c'est de mon point de vue la plus difficile, celle qu'on n'accepte jamais de reconnaître comme pouvant nous blesser. C'est quelqu'un qui vit dans cette catégorie par lui-même, c'est Dieu. La plupart d'entre vous, non, certains d'entre vous, vous en voulez à Dieu, mais vous n'avez même pas accepté de reconnaître que vous lui en voulez. Donc, vous en voulez aux gens, vous avez pardonné. Vous vous en voulez à vous-même, vous vous êtes pardonné. Mais celui à qui vous avez du mal à pardonner, parce que vous considérez que vous ne devez même pas lui en vouloir, c'est Dieu. Et Dieu, aide-moi à leur dire ça. Mais quand on est déçu par Dieu, pas forcément parce que Dieu nous déçoit, non, mais parce qu'on avait des attentes que Dieu n'a pas comblées, on en veut à Dieu. Je sais ce que c'est d'en vouloir à Dieu et de ne pas pouvoir l'exprimer. Je sais ce que c'est que d'en vouloir à Dieu, et parce que je sais que Dieu est parfait, ne pas me donner le droit de dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, et de lui dire, je t'en veux. Si tu n'acceptes pas que tu es blessé, tu ne peux pas guérir, mais tu dois pardonner. Tu dois pardonner à Dieu, tu dois pardonner à l'Église, tu dois pardonner à ses serviteurs, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu restes bloqué et tu ne pourras pas t'en sortir. Troisième point, Troisième chose, je vais la dire, mais elle est difficile. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Au cours de notre marche ensemble, j'ai posé des questions à l'évêque général, à notre père. Parce que vivant certaines situations dans ma propre vie, ne sachant pas ce qu'il vivait dans la sienne à l'époque, mais par observation, j'ai compris que si au niveau où je suis, j'ai ces réalités, j'ai ces choses que je vis, c'est quasi improbable qu'il les ait jamais vécues. Donc, l'une des choses que je lui ai posée comme question, ça fait plusieurs années, on avait fait un voyage de Libreville à Lambaréné, c'est lui qui conduisait. Et je lui avais demandé, comment tu fais pour pardonner? Pardonner les trahisons, pardonner les blessures, pardonner, pardonner. Je ne me rappelle plus de tous les mots exactement qu'il avait dit, parce qu'on avait échangé assez longuement. Mais l'esprit, je m'en souviens. Et c'est beaucoup plus tard, écoutez-moi, que j'ai réalisé quelque chose qu'il m'a dit. Premièrement, j'ai découvert, c'est pas ça qu'il m'a dit, je vous dis d'abord premièrement, ce que j'ai découvert, c'est qu'il croit profondément en l'homme. Il croit profondément que les gens peuvent changer. Ça veut dire que même quelqu'un qui est méchant, mauvais, peut devenir autre chose. Quand il dit « il n'y a pas de fatalité », ce n'est pas un slogan. C'est profondément ancré. Il n'y a pas de fatalité. Un voleur peut devenir un apôtre. Mais ce qu'il m'a dit en essence, et c'est pour ça que je vous le dis ce matin, je pardonne parce que je sais que j'ai besoin de pardon. Je ne veux pas que le jour où moi, je demande à Dieu son pardon, que je ne puisse pas l'obtenir parce que je garde des gens prisonniers dans mon cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire, ne pas pardonner, c'est dire à l'univers, aux forces invisibles que toi, jamais tu ne vas te tromper, jamais tu ne vas fauter, jamais tu ne vas blesser, jamais tu ne vas trahir, jamais tu ne vas décevoir, que tu seras toujours parfait et que toi, tu n'auras jamais besoin de pardon. Quand tu es vrai avec toi-même, quand tu te connais, tu ne peux pas ne pas pardonner. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. La quatrième chose, je vais essayer d'atterrir pour respecter le temps qui m'a été imparti. Dieu tient ses promesses. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Sa venue sur la terre et particulièrement dans la vie des disciples est l'accomplissement d'une promesse qu'il a faite. Mettez Romains 8, 32 sur l'écran, s'il vous plaît. Romains 8, 32. Lisons Romains 8, 32. 1, 2, 3. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Ce que ce texte dit, c'est que si Dieu t'a donné Jésus, il n'y a rien qui peut te refuser. Mais c'est profond parce que ça veut dire que tu dois croire que de la même manière que Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus, que son amour pour toi va se manifester par le fait qu'il va frayer un chemin là où il n'y en a pas, te sortir de certaines situations. Tu dois garder la foi en Dieu. Tu dois croire contre toute espérance, espérant contre toute espérance. Le problème avec les promesses que Dieu fait, c'est qu'elle tarde. Et c'est mon cinquième point. Il m'en reste deux et j'ai fini. Cinquièmement, les promesses de Dieu s'attendent. Quand Dieu vous fait une promesse, ce que la fête de la Pentecôte m'a rappelé, c'est qu'il faut l'attendre. Et je vais vous donner deux manières par lesquelles il faut attendre la promesse. Comme j'ai dit ce matin, j'essaye d'enseigner, j'essaye de vous donner des choses avec lesquelles vous pouvez repartir et pas juste faire des déclarations. J'essaye de vous modifier par le discours qui sort de ma bouche, de modifier votre raisonnement, votre logique. La première façon dont il faut attendre les promesses de Dieu, c'est dans la prière. Malgré le fait qu'ils aient marché avec Jésus plus de 3 ans, Jésus va leur dire, attendez la promesse qui vient d'en haut. Et il dit, priez. Quand tu as une promesse que Dieu t'a faite, reste dans la prière. Attends dans la prière. La deuxième façon avec laquelle il faut attendre, c'est en communauté. J'explique. Si tu t'isoles dans le but d'attendre ce que Dieu te donne, tu vas te perdre. Il y a des promesses que Dieu ne fait pas aux individus, mais au corps, à des communautés. Pour les vivre, il faut être en communauté. N'abandonnez pas vos assemblées. Hey Dieu. Il y a des choses que Dieu n'a pas faites dans ta vie parce que tu as séché le culte où Dieu voulait les faire. Je vais vous redire ça. Dieu avait prévu faire une œuvre particulière ce jour-là. Tu n'es pas venu. Dieu n'est pas allé la faire chez toi à la maison. Hey Dieu, pourquoi vous faites ça? La dame qui vient, entre autres, parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu a déjà guéries dans la maison, il y a déjà des guérisons, des miracles, il y a des bénédictions que Dieu a répandues. Mais vous vous rendez compte que de manière générale, même quand le prophète ou l'homme de Dieu dit, il cherche quelqu'un, la personne est absente, ça s'arrête là. Et on dit, allez la chercher. Ça veut dire que c'est pas ok, moi j'irai vers elle, c'est il faut qu'elle vienne au lieu du rendez-vous. Les promesses de Dieu ne s'attendent pas partout. Il y a un lieu d'attente. Il y a un lieu où tu dois être en communauté pour pouvoir attendre que la promesse s'accomplisse. Dites amen. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, arrête de t'absenter. Des réunions importantes. L'évêque général raconte cette histoire en indiquant que l'une des choses majeures, c'est, je résume à cause du temps, comment faire pour recevoir le pouvoir? La réponse, il faut être là où le pouvoir se donne. Comment faire pour recevoir le miracle? Il faut être là où le miracle se donne, où le miracle est rendu disponible. C'est toujours aberrant pour moi qu'on parle comme ça un dimanche matin en disant le soir, on a une réunion de puissance. Et toi? Elle dit, c'est, j'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai exhorté, j'ai parlé comme un pasteur, comme l'évêque. J'ai dit, ne manquez pas la réunion de ce soir. Dieu va te faire du bien. Toi, dans ta tête, tu te dis, j'étais déjà au culte le matin. Si Dieu voulait me faire du bien, fallait qu'il me fasse le matin. J'ai déjà mon programme. Ah. Donc maintenant, c'est Dieu qui doit s'adapter à ton programme. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut être là. Il faut être là. À cause du temps, je veux vous donner un dernier point que je veux développer un peu. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin et que vous devez vous souvenir de quelque chose, voici ce dont je veux que vous vous souveniez. C'est mon dernier point. Écrivez, les choses de Dieu ne sont pas simples. Les choses de Dieu ne sont pas simples. Quand je parle de ça, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la vie chrétienne est une vie de l'esprit. Nous ne devons pas être simples parce que notre Dieu ne l'est pas. Nous devons être des personnes compliquées. Des personnes qui entendent des voix que d'autres n'entendent pas. Des personnes qui voient des choses que d'autres ne voient pas. Nous devons vivre des expériences que d'autres ne vivent pas et qui nous mettent au large, qui nous séparent de nos contemporains. Nous vivons entourés d'esprit. Nous vivons entourés d'esprit. Toujours dans ce point, ce que j'essaye de dire, c'est que la vie de l'esprit est une vie de sacrifice. Et ce matin, je suis venu comme avec un couteau dans les mains. Je suis venu offrir un sacrifice. 1 Samuel 16, j'ai fini. 1 Samuel 16, l'huile. 1 Samuel 16 raconte que Dieu est sur le point d'oindre le prochain roi. Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Remplis ta corne d'huile. Et, révérend Alexis, remplis ta corne d'huile. Il dit, va chez Isaïe, Jesse. Dans sa maison, j'ai décidé d'oindre le prochain roi. Premièrement, sachez que l'huile n'échoue pas. Les gens échouent, mais l'huile n'échoue pas. Vous devez donc accepter de remplir votre corne d'huile à nouveau, même si celui sur qui vous avez versé l'huile la première fois a échoué. C'est pas l'huile qui a échoué, c'est l'individu. Dieu est obligé de dire à Samuel, remets l'huile dans ta corne et va oindre quelqu'un d'autre. Quand tu as échoué quelque part, ne dis pas que c'est la fin. Remets l'huile et va commencer autre chose. Mon père, la Bible dit que quand il arrive chez Jesse, Isaïe, Samuel, en parlant à Dieu, dit à Dieu, si Saül entend que je vais oindre quelqu'un d'autre comme roi, il va me tuer. Dieu ne lui dit pas, ah, c'est vrai, laisse. Moi-même, je vais aller oindre. Mets-toi en danger. Mais il dit, la seule couverture que je peux te donner pour qu'on ne sache pas que tu vas oindre le roi, c'est invite la famille dans laquelle se trouve le prochain roi au sacrifice. On n'invite pas une famille au sacrifice si dans cette famille on n'a pas prévu d'oindre un roi. Le sacrifice est le camouflage, l'excuse que Dieu utilise, mais l'objectif, c'est l'onction royale. Vous ne m'entendez pas? Je veux t'envoyer voir quelqu'un, Mais je sais que si on apprend que tu es allé voir la personne, ça va te créer des problèmes. Je cherche une excuse pour que quand tu ailles voir la personne, on ne sache pas que tu es allé la voir. Donc, vous me suivez. L'excuse permet que les incultes ne sachent pas ce qui va se faire. Les initiés savent que dès qu'on entend sacrifice, c'est qu'il y a onction. Aïe. Vous ne pourrez pas vivre la vie de l'esprit sans sacrifice. Le premier sacrifice, ce n'est pas le sacrifice financier, c'est le sacrifice de soi. Le sacrifice de sa réputation. Attrape-moi lui. Mon temps est fini. Regardez-moi. S'il vous plaît. Si vous êtes tellement préoccupé par ce que les gens pensent de vous, vous ne ferez pas ce que Dieu attend de vous. Si vous êtes tellement préoccupé par ce que les gens pensent de vous, vous ne serez pas qui vous devez être. Vivre par l'esprit coûte la réputation, coûte la renommée, parce que Dieu n'est jamais dans la masse. Dieu n'est jamais dans la popularité ou le popularisme. Dieu veut te rendre grand, mais pas par les gens. Si tu n'es pas d'accord de sacrifier ta réputation, tu ne seras pas ce que Dieu veut faire de toi. Maintenant, laissez-moi vous aider, mon temps court, mais laissez-moi vous aider. Ça veut dire que Dieu va vous mettre volontairement dans des situations où aux yeux des gens, vous allez échouer. Le prophète dit, je vois. C'est vraiment Dieu qui lui a montré. Et Dieu va s'organiser pour que malgré le fait qu'il ait vu, ce qu'il a vu n'arrive pas. Parce que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas que ce que tu as dit arrive. Le plus important, c'est que tu lui obéisses. Et si tu ne veux lui obéir, que si tu as des garanties que ça va marcher, Dieu va s'organiser pour te dire, vas-y, je serai avec toi. Et puis quand tu y vas, tu te prends un mur. Tu commences à couler. Tu touches le poteau. Tu échoues. Ça ne prend pas. Et là, tu dis à Dieu, mais tu m'avais dit. Dieu dit, je t'ai dit. Et je ne mens pas. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Sauf que le plus important, c'est que est-ce que tu es capable de m'obéir? Dieu dit à Abraham, apporte-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et tue-le devant moi. Dieu a vraiment dit ça. Oh. Au moment où Abraham est en train de lever le couteau, Dieu dit à nouveau, hey, c'est bon, je blaguais. Ne le tue pas. Okay. Maintenant, je sais que tu me crains. On a marché ensemble pendant plus de 25 ans. Tu es le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Rien n'est caché devant ta face. Comment tu peux dire, maintenant, je sais? Ça veut dire qu'avant, tu ne savais pas. Et ce n'est pas que Dieu ne sait pas. C'est que Dieu veut que tu saches ce qu'il sait. Dieu sait que tu es capable, mais tu ne le sais pas. Dieu crée la circonstance pour que toi-même tu te découvres et que tu te rendes compte que donc je suis capable de sacrifier mon fils pour Dieu. Sacrifier sa réputation, c'est l'évêque général, le boss. On est avec un prophète. Je vais vous faire entrer un peu dans nos choses. On se retrouve dans ces conclaves. On est en train de discuter et le boss pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les prophètes qui s'ignorent? Inconscient. Il demande aux prophètes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les prophètes inconscients? Parce que, moi, ça a des concepts. Donc, Le prophète inconscient, c'est quelqu'un qui est prophète, mais qui n'est pas conscient qu'il est. Et tant que tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne peux pas le manifester à volonté. Tu le manifestes par hasard, par accident, mais pas par conscience. Donc tu es comme un esclave. Aussi longtemps que l'enfant, l'héritier demeure un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Et le prophète répond, ah, ça veut dire quoi mon évêque? Prophète inconscient. Et donc il explique le concept du prophète inconscient. Et là le prophète parle et dit l'une des choses, c'est qu'il faut que la personne soit d'accord de sacrifier sa réputation. Et donc le boss renchérit en disant, c'est ça. Lui, il est trop conscient de lui. Il a peur d'échouer. Écoutez-moi bien. Tant que tu n'arrives pas à dépasser la peur de l'échec, la peur du « qu'en dira-t-on ?», la peur du regard des gens, la peur que ça ne marche pas, que le miracle ne se produise pas, la peur que la personne dise « j'ai toujours mal ». Après ta prière, tant que tu ne dépasses pas cette peur, il y a une dimension de la spiritualité, de la vie de l'esprit que tu ne connaîtras pas. Vous savez comment ça fait de se lever et de dire à quelqu'un que tu ne connais pas, tu t'appelles. Et pendant que tu dis tu t'appelles, c'est-à-dire que tu donnes un nom, tu oses. J'ai fait ça, on était un culte. À l'église centrale au centre-ville, montez fini. On était un culte, je viens ici pour que vous me voyez. On était un culte à l'église centrale au centre-ville. Et puis, je prie pour quelqu'un. Mais je suis dans le culte, hein, comme ça. Et puis, dans le culte, je dis, ah, je parle des sons, je parle de l'écoute de la voix de Dieu. Et puis, je dis, par exemple, si je touche ce monsieur et que je lui dis, tu t'appelles Yves. Écoutez comment moi je suis sage. Tu t'appelles Yves. Il va me dire que ce n'est pas son nom. Tu t'appelles comment? Marc. J'ai dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Mais si je lui dis, là je sais que je ne me trompe pas. Je prends l'exemple, mais ce n'est pas lui. Je prends l'exemple sur la personne. Je dis, si je lui dis qu'il y a une blessure dans son cœur liée à sa relation avec son père. Autour de la relation avec son père, une blessure s'est faite dans son cœur. Et à partir de là, il a commencé à tourner en rond. Il a du mal avec l'autorité. Le monsieur commence à pleurer. Moi, je sais. Mais quand il s'agit des prénoms, c'est-à-dire que l'audace, la folie. Parce que sur le prénom, tu ne peux pas... S'il y a des paroles de connaissance, tu es ici, tu souffles dans ton cœur. Viens. Que vous ne le vouliez pas dans une salle comme ça, quelqu'un va souffrir dans son cœur. Mais quand tu isoles quelqu'un comme lui là, et puis tu dis lève-toi, toi tu t'appelles, moi-même je suis là, j'intercède là-bas, si pas mantepalaha bradekala yapa. C'est comme dire à quelqu'un qui a la béquille, lâche la béquille, tu es guéri, cours, elle tombe, elle se relève, elle a plus mal, la plaie s'est empirée, elle est là dans le moment, cours. Quand elle commence à courir, viens, faut voir d'abord que viens leur montrer comment. Bon, vous savez pas. Elle est là. Il y a une autre maman là. Maman, viens. On était ici à l'église centrale. Dans des cultes comme celui-ci. Elle, c'était il y a quelques semaines. Elle, c'était il y a plusieurs mois. Elle était avec la béquille. Voici les témoignages vivants de la puissance de Dieu. C'est vrai. Elle est venue au culte. Elle n'a pas séché le culte comme toi. Elle est venue au culte avec ses deux béquilles. Deux béquilles. Elle avait mal, elle ne pouvait pas. Elle avait une opération. La douleur est toujours présente. Elle est venue avec des projets qui ne voyaient plus le jour. Au culte, Dieu l'a guérie. Et Dieu lui a donné un fonds de commerce qui dépassait ce... Est-ce qu'on peut rendre la gloire à ce Dieu? Merci. La maman là. Non, attendez que moi je fasse un peu la promotion de mon Dieu. J'ai des béquilles dans mon bureau, j'ai leurs béquilles dans mon bureau. Ma première béquille, je suis un culte, on est en train de finir le culte comme aujourd'hui, et comme le soir. Et elle a les béquilles. Ouais, vous étiez là. Donc elle a la béquille, je vais vers elle, et puis je mets la main sur son genou. Je suis en train de prier par la foi, je me dis c'est la fin du culte, on est sur le point de finir, on était en train de faire la deuxième offrande. Je mets ma main sur le genou, je prie. C'est pas que je vois un ange. Je touche la maman par la foi. Je me dis, bon, au moins j'ai prié. Pendant que je suis en train de prier, maman, comment tu as fait? Elle a laissé la béquille. La maman elle-même a sauté comme ça. Elle a sauté même plus que toi, tu ne sautes. Elle a commencé à sauter. Elle est venue, elle a couru. Elle s'est mise à genoux. Aucune douleur. Tu avais les douleurs depuis combien de temps?
Pendant 3 mois.
Elle avait des douleurs qu'elle ne... Elle est partie au mariage d'un de ses fils après. C'est ça, non? Je l'ai vu accompagner son fils au mariage. Je m'envoie la vidéo. La maman danse. Elle fait le malin. Maman, il faut leur montrer d'abord comment on fait le malin. Marche. Comment tu as dansé quand tu as accompagné ton fils pour le mariage? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu qui guérit parmi nous? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu qui délivre parmi nous? Est-ce qu'on peut célébrer ce Dieu?
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.